Le business de la bouffe est très impacté par l'épidémie du Covid-19. Les consommateurs sont confinés à la maison et les entreprises sont obligées d'arrêter ou de repenser leur activité.
Ainsi, pour mieux comprendre cette réalité, nous nous sommes rapprochés des acteurs de la bouffe pour qu'ils partagent avec nous leur expérience de cette crise inédite.
Confinement oblige, ces épisodes sont faits maison et enregistrés à distance.
Bonjour à toutes et à tous, je suis comme d'habitude avec mon associé Philibert qui ne refuse jamais un bon plat de pâtes et une pizza napolitaine sortie du four. Buongiorno Filiberto.
Buongiorno Daniel, come stai?
Bene, bene. Philibert, nous sommes aujourd'hui avec un entrepreneur qui a réinventé le modèle de la cantine italienne à Paris et qui en très peu de temps a réussi le pari fou des cantines italiennes à taille XXL. Il a déjà ouvert quelques restos en France et à l'étranger. Nous sommes aujourd'hui avec un des fondateurs du groupe Big Mama, Tigran Seydou. Bonjour Tigran.
Bonjour Daniel, bonjour Philibert.
Alors Tigran, la restauration passe par une crise très très importante, les restaurants sont fermés depuis presque 2 mois, les groupes Big Mama ont aussi fermé ses portes et annoncé récemment la mise en place de la vente à emporter. On va parler de tout ça, mais avant d'y revenir, on aimerait démarrer avec notre question rituelle dans cette édition spéciale Fait Maison. Quand est-ce que tu as pris conscience de la crise et quelles ont été tes premières réactions?
Ça me paraît bizarrement déjà loin, le début de la crise, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans nos têtes et au sein des équipes. Mais quelques jours avant la fermeture du week-end mi-mars, de la fermeture administrative du gouvernement, on a senti un peu le vent tourner, en regardant évidemment ce qui se passait dans les pays voisins, l'Italie dont on est très proche, et surtout parce qu'on commençait à avoir une baisse de fréquentation de nos restaurants, ce qui était quelque chose dont on n'avait pas forcément l'habitude. Et donc, dès le jeudi ou le vendredi, si je me souviens bien, on a décidé de fermer nos trattoria, donc 2-3 jours avant le samedi soir en question. Et le samedi matin, on s'est réveillé en se disant qu'il fallait aussi, pour des raisons de sécurité de notre staff et de nos clients, fermer la Felicita. Donc en fait, on avait fermé l'ensemble de nos établissements avant même que le gouvernement nous l'impose.
Par décret. Vous avez anticipé le décret du gouvernement pour protéger vos salariés.
Quelques heures, quelques jours, mais on l'avait légèrement anticipé, oui.
Et c'est la proximité avec l'Italie qui peut-être vous a permis d'anticiper un petit peu tout ça?
Oui, déjà, c'est sûr qu'on suivait de très 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 près la situation en Italie, parce qu'on a une majorité de nos approvisionnements qui vient de là-bas, donc on suivait depuis mi-février la situation, on va dire, économique et sanitaire de l'Italie, donc on était assez proche de la balle sur ça, et je vous dis, en fait, d'un point de vue de fréquentation des restaurants, on avait pris moins 20, moins 30, sur certains établissements, moins 40% de fréquentation sur depuis le début de semaine, qui globalement n'était vraiment jamais arrivé chez Big Mama. Et donc, on a vu qu'il se passait quelque chose d'extrêmement fort. Et en fait, on n'a pas trop réfléchi, on s'est mis tout de suite en mode carapace. Donc ça a été vraiment la première position qu'on a eue pendant la crise. Il y en a eu d'autres ensuite, on y reviendra. Mais on s'est mis vraiment en mode bunker. On protège nos salariés, nos clients, bien sûr, derrière ça. Et on ferme et on se met en mode bunker. On préserve nos dépenses, on préserve notre trésorerie. Tout de suite, on a senti que ça allait être compliqué. Et on a coupé énormément de choses très, très vite.
Justement, tu parles de protéger la trésorerie, donc quelles mesures tu as dû prendre? J'imagine que comme tous les restaurateurs, tu as utilisé le chômage partiel, je pense que toute la totalité de tes salariés doivent être en chômage, ou ont dû être à ce moment-là en chômage partiel, c'est ça?
Oui, alors ça s'est fait progressivement. Nous, on a 1200 salariés, on en a à peu près, dans les grandes masses, 1000 en France et un peu plus de 200 en Angleterre. Donc on a dû faire face à deux systèmes d'aide assez différents. La France a été hyper réactive sur son système d'aide. Le gouvernement, c'est pas parfait. Évidemment, on est tous sous respiration artificielle sur nos métiers aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a eu un gros mérite du gouvernement français, des pouvoirs publics français, c'est qu'on a eu des réponses sur les aides très rapidement. Ça a été extrêmement réactif sur le chômage partiel. Clairement, aujourd'hui, ça a sauvé une énorme partie de nos emplois. On n'aurait pas du tout pu maintenir, compte tenu du niveau de charge, parce qu'on est quand même...
De masse salariale, bien sûr.
Voilà, de masse salariale très importante. Donc ça a été une bouée de sauvetage énorme. Et le UK, en comparaison, c'est intéressant de voir la comparaison des deux pays, on a mis deux semaines et demie à avoir les dispositifs du UK. Donc, on a eu les 10 premiers jours de crise au UK ont été très, très compliqués parce qu'on savait pas si on allait pouvoir maintenir les emplois, on savait pas si on allait avoir de l'aide, on savait pas si, donc on a fait tous les jours, on faisait 1000 scénarios, on communiquait énormément avec notre staff. On s'était donné vraiment un devoir de transparence totale. On faisait quasiment, on n'a jamais autant communiqué, en fait, avec nos équipes, ce qui est assez paradoxal, mais on faisait des live chats, alors évidemment à distance, mais on faisait des lives quasiment tous les jours, même si on n'avait pas forcément les informations précises, mais pour partager les scénarios, pour dire voilà, on attend des réponses. Si on a ces réponses-là, voilà ce qui va se passer. Si on n'a pas ces réponses-là, voilà ce qui va se passer. Et ça a quand même instauré un climat de confiance et de transparence très très fort entre nos équipes et nous, même si le contexte était extrêmement compliqué et que on en était à leur dire, écoutez, on n'est pas sûr de pouvoir préserver 100% de nos emplois. Ouais. Ça dépend d'un certain nombre de réponses qui sont externes au groupe, mais en tout cas, voilà comment on réfléchit. On veut fonctionner en bon père de famille. On veut vraiment garder du bon sens dans tout ça. Le bon sens parfois nous obligera à faire des choix qui sont compliqués. Heureusement, avec les aides qu'on a eues jusqu'à présent, on n'a pas eu de cataclysme social. On n'a pas eu besoin de faire des coupes dans les équipes parce qu'on a été extrêmement aidé et protégé là-dessus. On verra si on devra le faire dans le futur. On n'est pas à l'abri. Il faut être lucide par rapport à ça. Mais en tout cas, on a bénéficié de ces aides. Donc ça, il y a eu le chômage partiel. On s'est mis beaucoup aussi auprès de tous nos partenaires bancaires pour solliciter tous les crédits bancaires qu'on pouvait pour les dispositifs d'aide à la trésorerie. Donc ça nous a pris énormément de temps. Voilà, donc toute la première phase de la crise, les 2, 3, 4 premières semaines, elles ont été très focalisées là-dessus, être très transparent et avoir une communication quasi quotidienne avec notre staff. Ça, c'était très important. On en a profité aussi, c'est assez drôle, pour mettre en place on a senti que le sentiment d'appartenance et que la culture d'entreprise devait être vraiment renforcée et extrêmement forte pendant cette période. Et on a, alors c'était une manière de le faire, on aurait pu faire d'autres choses, mais on a ressorti tous les souvenirs, tous les trucs marrants, les souvenirs, les bons moments de Big Mama depuis 5 ans, et on les partageait un à un chaque jour avec de l'histoire, des valeurs derrière pour dire voilà qui on est, voilà d'où on vient, voilà qu'on continuera à être ça. Il faut traverser la tempête, on est dans le tunnel, mais la sortie elle viendra un jour, puisqu'on va redémarrer un jour. Il y aura des restaurants dans 10 ans, donc la restauration ne va pas mourir, elle traverse juste une période très compliquée, et n'oublions pas qui on est et quelles sont nos forces, et on a essayé d'être extrêmement partageur de cette énergie positive, et on s'est mis un point d'honneur à pas sombrer dans le pessimisme, et je pense que c'est passé beaucoup par la transparence et la communication.
Ben super. Tigrane, nous avons eu beaucoup de restaurateurs, quelques restaurateurs en fait qui sont passés depuis les débuts de la crise dans ces podcasts. Nous avons parlé des rôles des assurances avec Stéphane Gégaud de la Mijan. Nous avons évoqué aussi les loyers. Et je pense que dans votre cas, les loyers, c'est quand même un point important dans votre structure des coûts, parce que vous avez quand même des restaurants qui sont d'une taille très importante. Avec Julien Perret de la chaîne de restauration rapide Bichef, on parlait d'une possibilité de peut-être des renégociations, voire des annulations des loyers pendant les mois de mars et avril. Comment vous avez géré cette situation-là?
Ouais, alors nous on a un business model qui est légèrement inversé chez Big Mama par rapport à la restauration classique traditionnelle. C'est que on a sur notre volume d'activité classique normal, donc d'avant crise, on a finalement un poids des loyers qui est assez faible. Et on a une masse salariale qui est assez élevée. On a toujours dit, voilà, on voulait massivement investir dans ce qui compte pour le client, c'est-à-dire le rapport qualité-prix et le service. Donc le staff et le coût matière, être très généreux sur les deux et investir beaucoup là-dessus. Et toujours avoir une approche de l'immobilier qui soit très, très le plus light possible, c'est-à-dire choisir des emplacements plutôt dans des emplacements 1 bis. On n'a pas du tout les meilleurs emplacements de Paris. Et ce qui va avec, c'est qu'on a plutôt des loyers qui sont faibles. Donc nous, on n'a pas un métier où on a un coût des charges fixes qui est extrêmement important, c'est-à-dire avec des très gros loyers. Et inversement, on a un coût de charges fixes toujours, mais très important autour du staff et des coûts matières. Ça, c'était très important parce que c'était nos deux piliers fondamentaux chez Big Mama. Et donc, on a assez peu souffert du poids des loyers depuis la crise. Un, parce qu'on a toujours négocié nos loyers soit avec des parties variables qui nous permettaient de... qui nous ont permis là de passer la crise d'une manière un peu plus light que d'avoir 100% des coûts fixes et sur des voilà sur des montants en valeur de loyer qui sont pas trop élevés. Donc une fois que j'ai dit ça, il y a toujours du loyer à payer, bien sûr. La réponse, c'est qu'on est, comme tous les acteurs de la restauration et de l'hôtellerie du monde, en négociation avec nos bailleurs pour pouvoir évidemment avoir des annulations, des franchises, des réductions de loyer, puisqu'on part tous du principe que si on est en fermeture administrative et qu'on peut pas opérer notre métier, ça n'a pas de sens économique de devoir continuer à payer un loyer. La réponse, c'est qu'aujourd'hui, on n'en a pas. Il n'y en a pas de manière ferme. Il y a des attitudes personnelles d'un bailleur à l'autre qui sont assez changeantes. Il y a des bailleurs qui sont plus ou moins conciliants. Mais voilà, je pense qu'il y a un consensus du marché qui va arriver. Il y a un médiateur qui a été nommé. Il y a les grandes foncières qui se sont positionnées. Je pense que c'est pas tant à notre niveau de restaurateur indépendant tel qu'on est d'un bail à l'autre de négocier ses loyers, mais ça va plutôt être un mouvement du marché qui va se positionner en disant voilà, il faut faire des franchises de loyers pendant les périodes de crise, il faut redémarrer avec des loyers qui sont à X% moins élevés parce que sinon on va mourir.
Et les bailleurs seront perdants aussi parce que de toute façon, s'ils se retrouvent avec des locataires bien qui sont faillis, qu'ils n'auront pas de loyer, donc ils ont tout intérêt à entendre le discours des
on n'a pas de baguette magique sur ce, on n'a pas de baguette magique sur ce truc. La seule chose sur laquelle on peut s'appuyer, c'est un mouvement du marché général et qui a plutôt été impulsé de manière positive pour les restaurateurs par les grandes foncières. Tout le monde ne l'a pas suivi, mais il y a quand même pas mal de foncières qui ont joué le jeu auprès des commerces en disant on vous facturera pas les loyers sur les périodes de fermeture administrative.
Et vous, comment vous voyez là ces débuts de réflexion sur le déconfinement, donc qui officiellement, enfin on n'en a pas vraiment encore la confirmation, commence la semaine prochaine. Est-ce que vous commencez à construire un plan, tu vois une échéance de réouverture des restaurants ou c'est encore évidemment complètement flou?
Oui, bien sûr, on fait tourner tous les scénarios possibles et on prend des hypothèses parce que en fait la seule façon d'être visionnaire aujourd'hui dans l'incertitude totale dans laquelle on est, c'est de prendre des positions et des hypothèses et de travailler là-dessus. La nôtre, je ne sais pas si c'est la bonne. La nôtre aujourd'hui, c'est de dire que on tape probablement sur une réouverture mi-juin des établissements.
Alors, d'accord.
En fonction des tailles, ça ne sera pas le cas de tous les établissements. On a notamment la Felicita, que vous le savez, qui fait 5000 m², qui est un établissement complètement hors norme. Donc ça sera probablement pas le même timing que les trattoria classiques qu'on a. Mais en tout cas, on pense probablement qu'à partir de mi-juin, alors à une semaine près, hein, c'est peut-être pas, j'ai pas la date exacte, mais l'ordre de timing, c'est plutôt celui-là, mais avec des restrictions évidemment liées aux contraintes sanitaires qui vont faire qu'on va pouvoir réouvrir, selon nos hypothèses, à 50-60% de chiffre d'affaires de l'avant-crise.
Parce que justement, vous allez prendre des mesures de distanciation des tables, des choses comme ça, puis certainement si les gens vont pas tous tout de suite sortir, c'est ça?
Il y a deux choses. Un, on devra suivre évidemment les préconisations gouvernementales et sanitaires. Donc ça, c'est pas une décision qu'on prendra. C'est en tant qu'entreprise citoyenne et respectueuse des lois, évidemment qu'on le prendra. Un, par respect. Deux, par protection de notre staff et de nos salariés. Et pour évidemment, comme tous les acteurs du marché, redonner un max de confiance aux clients. Donc, on se mettra... on commence à avoir une toute petite expérience puisque je pense qu'on va en parler un peu après, mais on a réouvert nos restaurants depuis maintenant une grosse semaine, puisqu'on s'est dit qu'on allait lancer on allait transformer nos restaurants en traiteurs épicerie à emporter dans un premier temps. Donc, on a réouvert nos restaurants. On accueille sans accueillir à l'intérieur des restaurants, mais on accueille des clients. On a du staff qui tourne et qui travaille dans les... Donc, on commence à voir comment tout ça se goupille par rapport aux contraintes sanitaires. C'est clair que c'est massif. Nous, on a été vraiment ultra drastique sur les sur les conditions d'opérabilité sanitaire des restaurants, et c'est difficile. C'est difficile à opérer tous les jours quand vous pouvez pas vous rapprocher à 1 mètre, 1 mètre 50 l'un de l'autre dans une cuisine qui font c'est les cuisines de restaurants parisiens, hein, ça fait pas 200 mètres carrés. Quand vous avez des flux, quand vous avez des, et on le fait. Et là-dessus, je tiens un chapeau aux équipes parce que c'est un travail du quotidien qui est vraiment pas efficace, enfin pas justement efficace, mais pas du tout facile. C'est chaud. Et je sais pas si vous êtes confiné de votre côté chez vous, mais porter un masque toute la journée de 9h du mat à 23h le soir, faites l'expérience. Quand vous avez pas l'habitude, c'est assez spécial.
C'est pour ça que moi je suis marqué, tant mieux, hein, je trouve que t'as un timing et un scénario qui est finalement assez optimiste, parce que on a reçu beaucoup de restaurateurs dans ce podcast, on a échangé beaucoup avec des restaurateurs, et certains nous parlent plutôt de scénario de septembre, parce qu'ils ont bien conscience qu'une ouverture, même optimiste, avant l'été, ça va être dans des conditions très compliquées, où on dira seulement la moitié des tables, le personnel sera très contraint, et que déjà d'une, ils ont un doute sur le fait que les salariés puissent travailler convenablement. Puis un autre sujet, c'est juste la rentabilité. Parce que on sait qu'un restaurant classique, alors c'est vrai que vous avez un modèle qui est un peu différent, mais dégage des marges qui sont très très assez faibles, des marges nettes assez faibles. Et si on commence à diviser le nombre de tables par deux, ça sert à rien d'ouvrir. Ça
J'entends bien ces arguments. Ouais. J'entends évidemment bien ces arguments. Je les partage parce qu'on est tous dans le même bateau. Là où j'essaye d'être à ma petite échelle optimiste, c'est que c'est la seule réponse qu'on peut apporter aujourd'hui au merdier dans lequel on est. Si on n'est pas un petit peu optimiste, si on lève pas la tête en disant ok les gars, en fait on va y arriver, on va ouvrir mi-juin, on va le faire, même si c'est dans des conditions compliquées, tant pis, on n'aura qu'un client sur deux. À partir du moment où on arrive à pas perdre d'argent, parce qu'évidemment si vous ouvrez, vous perdez de l'argent, ça devient catastrophique. Mais peut-être qu'à 50-60% le chiffre d'affaires, on n'en gagnera pas, mais on n'en perdra pas. Mais en tout cas, on se maintiendra en vie. Et ça c'est notre philosophie. On l'a toujours eu, cette philosophie. C'est de dire ok les gars, c'est dur, on y va, mais on se lève, et on se lève le matin, et on retrousse les manches. Et je sais que c'est pas facile, et je peux vous le dire, depuis 10 jours on le fait dans une activité qui est très partielle, hein. Ce qu'on a lancé, on le fait avec beaucoup d'ambition positive et d'énergie. C'est des tout petits chiffres par rapport à aujourd'hui, par rapport à ce qu'on faisait avant. Mais waouh, qu'est-ce que ça fait du bien en fait. Qu'est-ce que ça fait du bien de relancer les équipes, de rallumer la flamme, de redonner un peu de positif, de redonner un peu de bonheur à notre staff, à nos clients. Nous, on a 90% du staff, c'est des jeunes de 20 à 35 ans qui sont confinés chez eux et qui meurent d'envie de repartir à la guerre et de réapporter un peu de sourire à leurs collègues. Et donc, rien que pour ça, je vais vous dire ça, rien que pour ça, ça a beaucoup, beaucoup de valeur, indépendamment du sens économique qu'on met derrière ces projets-là.
Tu me rappelles, Tigrane, en fait, on a fait un épisode exceptionnel avec Massimo Bottu, là, qui est en Italie, confiné, il nous disait un peu la même chose. Il disait que, je lui posais la question par rapport au business, il disait, mais c'est pas une histoire des business, c'est juste une histoire de s'y retrouver, d'être une famille à nouveau et de continuer à exister. Donc, ça va au-delà de l'argent.
Moi, si je vais être très honnête avec vous, si c'était qu'une question de business et même je suis pas sûr qu'on aurait rouvert dans les conditions d'un confinement une nouvelle activité click and collect. On le fait pas pour ça. Et d'ailleurs, on a assez peu monitoré ce côté-là. Je serais pas capable de vous dire aujourd'hui si c'est une semaine après, si c'est quelque chose qui est 100% viable. Ce qu'on monitore, c'est on monitore qu'on perd pas d'argent. Maintenant, est-ce que ça remplacera le business d'avant et un business qui a une pérennité économique? Je n'en sais rien. C'est beaucoup trop tôt pour dire. L'ambition de ce projet-là, c'est keep the momentum, c'est se lever le matin, avoir des projets, bosser sur en équipe, bosser sur des menus, bosser sur de la R&D, remettre des gens en cuisine, rallumer l'électricité des restos. Ça, ouais, parce que ça donne une niaque. Vous pouvez pas imaginer la niaque que ça apporte. C'est exceptionnel. Alors que encore il y a 2 mois, on servait 1000 clients par jour par resto. C'est ça qui est assez hallucinant.
J'ai une question par rapport au click et collect. Comme tu disais, tu sais, c'est très tôt hein, pour parler des résultats, parce que c'est quelque chose que vous venez de mettre en place. Mais ce qu'on voit, c'est que quand même la crise, et je pense que pour la restauration, c'est quand même est spéciale, c'est une crise qui impacte fortement, mais elle crée aussi des opportunités, peut-être des nouveaux business models qui vont émerger par la suite. Et est-ce que, par exemple, les click and collect, la livraison, vous, votre force, c'est quand même la capacité de sourcer des produits des qualités en Italie, les ramener en France et les proposer à votre clientèle avec un très bon rapport qualité-prix. Est-ce que demain, cette initiative de click and collect, des traiteurs, voire de la livraison, ne pourrait pas devenir un nouveau business model pour les groupes Big Mama d'épicerie italienne, on va dire, ou des traiteurs?
Ce qui est sûr, c'est qu'on a la première envie, c'est qu'on meurt d'ouvrir, on meurt d'envie de réouvrir nos restaurants d'avant, c'est-à-dire d'être encore plus fort sur le côté ultra expérientiel de nos restaurants physiques. Ça, c'est le premier objectif. Pourquoi? Parce que, évidemment, la crise a accéléré un certain nombre de changements structurels, a évidemment décuplé le manger à domicile, le manger chez soi, qui était déjà un trend très fort en énorme progression, la progression de la livraison, la progression de toutes les plateformes de manger au bureau, du manger à domicile. C'était déjà, c'est pas la crise qui a fait apparaître ces nouveaux business models. La crise ne fait qu'accélérer les changements structurels. Donc, la réponse à ça, quand on est restaurateur physique, comme on l'est nous, c'est notre premier métier, c'est notre cœur de métier, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut offrir comme promesse qui vienne vraiment justifier le fait que quelqu'un rentre chez nous, pousse les portes d'un restaurant et vienne s'asseoir. C'est 100% l'expérience. L'expérience, elle passe évidemment par la cuisine et par l'assiette, et on est restaurateur avant tout, mais elle passe par mille autres aspects que vous connaissez, évidemment le staff, l'énergie, la vibe, l'âme d'un restaurant. Moi, je pousse ce mot-là parce que je trouve qu'il est très très fort, l'âme d'un resto qui va bien au-delà de l'assiette. Donc, on veut être, le premier objectif, c'est on veut être ultra fort sur ce truc, et encore plus fort qu'avant parce qu'on aura besoin d'être encore plus fort qu'avant. Mmh. Le deuxième objectif, c'est de se dire comment est-ce que si on a un autre événement de ce type qui arrive dans 6 mois, 1 an, on n'est pas à l'abri, tout le monde en parle, hein, est-ce qu'on va se retaper des vagues de confinement, machin, comment est-ce qu'on pourra être un petit peu moins impacté qu'on ne l'a été il y a 1 mois. Donc ça, il y a une certaine forme de comment on imagine certaines diversifications et d'activités pour demain qui nous permettront, pas une diversification massive, puisqu'on capitalise toujours sur nos forces d'aujourd'hui, c'est-à-dire le sourcing, les bons produits. C'est les mêmes équipes en cuisine, hein, qui tournaient les restos avant et qui font l'offre de click and collect aujourd'hui. Donc, on se diversifie pas, on s'est pas dit, ah ben, on va monter des sites internet, c'est pas notre métier, on est restaurateur. Mais en tout cas, lancer des projets qui nous permettront d'être un petit peu plus résilients quand il y aura éventuellement des coupures et de se diversifier. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, et je pense qu'elle est très valable aujourd'hui, c'est finalement la plus grande faiblesse, c'est de se sentir invincible. C'est quelque chose qu'on a toujours extrêmement utilisé chez Big Mama, parce qu'évidemment on a eu, et je vous le dis de façon extrêmement humble parce qu'on a un métier très difficile et qui se rejoue tous les jours service après service, mais on a eu la chance d'avoir beaucoup de succès depuis 5 ans. Et je dis la chance parce que ça tient pas à grand chose. Et la philosophie quand on se lève le matin, c'est de se dire, OK, si on pense qu'on a un bon concept, si on pense qu'on est invincible, ben, on est mort. On est mort parce que la restauration, c'est pas ça. Le jour où vous pensez que vous avez gagné, le lendemain, vous faites un service de merde, le surlendemain, vous faites un service encore plus de merde, et le sur-surlendemain, il n'y a plus personne dans votre resto. Et ben, c'est un peu la même philosophie qu'on avait depuis 5 ans, mais qu'on active sur une période qui est plus compliquée, et de se dire, OK, on n'est pas invincible. Et on n'est pas invincible aussi sur notre cœur de métier, qui est la restauration physique, puisqu'on l'a vu, en 2 mois, on a dû passer de 100% de chiffre d'affaires à 0% de chiffre d'affaires.
Ça peut s'arrêter, ouais.
Comment est-ce que derrière cette notion de « on n'est pas invincible », on peut se donner un peu les outils et les armes pour continuer à garder cette petite flamme. Et après, est-ce que ça donnera des business florissants? Est-ce que ça donnera des relais de croissance et tout ça? J'ai un peu envie de dire, on verra. C'est la conséquence, et ça, c'est la suite du côté entrepreneurial de Big Mama. C'est de se dire, on a toujours été restaurateur, on veut opérer très bien nos restos, et on a toujours été entrepreneur. On veut toujours se remettre en question et se dire, OK, ce qu'on fait, c'est bien, mais est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut aller différemment? Est-ce qu'on peut être encore mieux? Et je pense qu'on est en plein dedans dans ces moments de crise.
Et justement, est-ce que cette crise, toi, elle te permet déjà de tirer des leçons et tu vois des axes sur lesquels tu voudrais que le groupe aille plus vite, ou vous soyez plus fort, justement, au-delà de la restauration, mais en complément de ce que vous faites déjà? Vous avez des pistes de réflexion là-dessus, ou c'est évidemment trop tôt?
Bah, sur les fondamentaux, oui. Je pense que ces périodes, elles te renvoient en pleine face qu'il faut être ultra fort sur tes fondamentaux. C'est pour ça que les clients y reviendront demain. Tu parlais du rapport qualité-prix, tu parlais du sourcing, de la qualité dans les assiettes, de la qualité des produits. Ce truc-là, quand ça va redémarrer, va falloir être au top du top. Parce qu'il y a une notion de confiance, il y a une notion de transparence, il y a une notion d'évolution des attentes des clients. Je dis pas que c'est une révolution par rapport à ce que le marché et à ce que Big Mama, parce que Big Mama, c'est un des acteurs du marché au sens large qui va vers ça, mais vers la traçabilité, vers la qualité, l'amélioration de la qualité des produits, vers savoir ce qu'on mange, vers l'impact écologique, bien sûr, vers mille choses qui était déjà présent, mais qui allait probablement mettre 2, 3, 4, 5 ans à venir, ou en tout cas à vraiment rentrer dans la tête des gens, bah en fait, ça ne mettra pas 3 ans, ça mettra 3 mois.
Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est un accélérateur de ces fameuses tendances qu'on observait déjà avant, la crise va accélérer tout ça.
Bien sûr, mais ça, c'est toutes les crises, quand vous analysez toutes les crises du monde, qu'elles soient sanitaires, économiques, ce sont des accélérateurs de changements structurels, sociétaux. Je prends un exemple, le télétravail, ça n'a rien à voir avec la restauration, mais c'est hallucinant. Nous, notre position sur le télétravail, vous m'auriez demandé il y a 4 mois, t'es pour ou contre le télétravail, je vous aurais dit, mais en fait je suis contre parce que je trouve que c'est extrêmement dur de créer une culture d'entreprise à distance quand les gens sont pas ensemble et les valeurs et un certain nombre de choses. Aujourd'hui, j'ai vu qu'en un mois et demi de travail à distance, on pouvait tout à fait maintenir une communauté, créer une culture d'entreprise forte, maintenir ce sentiment d'appartenance. Et donc demain, ça va transformer notre vision du truc. Et je pense qu'on fera beaucoup plus de télétravail, non pas parce que c'est forcé par le gouvernement, mais parce que c'est une tendance qui effectivement apporte aussi certaines choses. C'est un exemple parmi d'autres, mais c'est intéressant.
Et Tigrane, tu faisais référence au gouvernement français, en fait, qui a été très réactif dans cette crise-là. Et là qu'on parle de l'après-crise, récemment, il y a les patrons, le fondateur du groupe Bertrand, Olivier Bertrand, qui est sorti dans la presse pour demander un retour à la TVA à 5,5%. Quel est ton avis par rapport à ça? Tu penses que c'est encore une initiative du gouvernement qui pourrait aider les restaurateurs?
Oui, j'ai trouvé ça assez malin. J'ai trouvé ça assez malin parce que tous les métiers de bouche sont à 5,5 aujourd'hui. La restauration était repassée à 10 et à 20% sur les alcools. Je trouve que même de façon temporaire, c'est un bon levier pour pouvoir permettre aux restaurateurs de refinancer tous les protocoles de sécurité et sanitaire qu'on va devoir mettre en place. Parce que ça, c'est un autre truc. Non seulement on va devoir opérer avec 30, 40, 50, 60, 70% du chiffre d'affaires en moins. Sur quelle période, j'en sais rien, mais je suis très positif dans la vie, mais je reste extrêmement lucide sur ça. Je pense que les mois d'après-crise vont être beaucoup plus durs que les mois de crise qu'on est en train de vivre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est aidé et il y a une certaine forme de, il y a un marché qui est asphyxié, enfin, qui est paralysé. Et derrière, il va falloir réapprendre à marcher et c'est cette espèce de rééducation-là qui va être très très dure et très compliquée. Et je pense que toutes les petites actions qui vont permettre de financer, donc ce que je disais, c'est que on va opérer avec beaucoup moins de volume d'activité et en même temps, on va avoir des coûts qui vont augmenter parce qu'on va nous imposer des protocoles qui coûtent très cher. Et encore une fois, je pense à tous mes confrères qui ont des petits restaurants indépendants, qui n'ont pas forcément des assises financières fortes, machin. Mettre en place les protocoles de sécurité et sanitaire dont on parle, parce qu'il y a des trucs qui circulent, on commence à voir un peu des trucs à droite à gauche, ça va avoir un vrai coût. Donc si on n'a pas une certaine forme de subvention derrière qui va nous permettre de mettre ça en place, et je trouve que la TVA est assez malin pour être une subvention cachée, déguisée pour l'ensemble de la profession.
C'est intéressant que tu parles des coûts. On était avec donc les fondateurs des Frishti, Julia et Quentin, récemment, et ils nous expliquaient qu'en fait, pour continuer à opérer dans leur cuisine, ils ont dû mettre en place toutes les mesures sanitaires, et ça a un coût énorme. Quentin faisait même référence à Amazon, qui a publié son résultat pour les premiers trimestres, qui étaient les résultats les plus impressionnants de son histoire, mais en termes des chiffres d'affaires, mais un résultat, finalement, ils ont perdu beaucoup d'argent, parce que les coûts de mettre en place ces mesures sanitaires, il était très important, en fait.
Ouais, bah c'est ce que je disais juste avant et encore et c'est ce que je disais par rapport à oui, on parle d'Amazon, je vais pas les plaindre parce qu'effectivement s'il y a un grand gagnant de la crise c'est eux et même s'ils ont perdu marginalement de l'argent en mettant tout ça en place, ils ont probablement pris une part de marché colossale pendant la crise. Je parle plutôt de voilà de tous les artisans, les petits commerçants, les notre profession, les restaurateurs indépendants, tous ceux qui vont devoir réouvrir et dont on fait partie parce que oui on est peut-être un peu plus gros que les autres mais on reste une petite boîte. Il va falloir s'accrocher dur. Donc il faut que dans notre tête et dans notre mentalité on soit positif, qu'on regarde vers le haut et qu'on insuffle. Qu'on redonne un petit peu de contagion du bonheur autour de nous, mais il va falloir qu'on ait les reins serrés de l'autre côté et que ça va être compliqué, mais j'ai une conviction intime, c'est que on est dans un métier qui est le plus beau métier du monde, qui traversera toutes les crises. C'est pas un métier qui disparaît. C'est un métier qui est un tel vecteur de lien social, qui est tellement important pour la société. Et je dis pas ça parce que c'est mon métier que je l'adore, mais je dis ça parce que si ces commerces-là, si la restauration disparaît, ça n'arrivera pas, la société disparaîtra. Enfin, ce sont les premiers lieux du lien social, de la définition même de la société. Et donc, je pense que l'ensemble des acteurs, on va tous se battre pour faire en sorte que ça marche. Et je pense qu'on va devoir être énormément aidés pour cet objectif-là.
Et de manière très réaliste, tu parlais tout à l'heure des petits restaurateurs indépendants. Donc, vous avez la chance aujourd'hui d'être un plus grand groupe un peu structuré, même si évidemment vous êtes encore un groupe intermédiaire. Mais c'est que vous avez une assise financière, vous avez des partenaires. Donc, on voit tous que ces petits restaurateurs, ils sont en danger. On entend des chiffres hallucinants. Hein, parfois, certains disent, pronostiquent 50%, 30% des restaurants vont pas passer cette crise. Quelle est ta vision par rapport à ça, par rapport à eux?
Ouais, ce qui est assez intéressant, c'est par exemple, nous on a une vision de l'Angleterre parce que on a des établissements à Londres et Victor vit à Londres. On est assez proche du marché anglais, on regarde de très près. Il y a énormément de gros groupes de restauration qui commencent à pas aller bien du tout et à être dans des procédures de redressement ou de faillite et plutôt des grands groupes qui avaient inversement des structures de charges très très importantes, qui s'étaient probablement développées très ou trop vite, et donc derrière mal financées ou mal avec des trop endettées et qui sont arrivées un peu fragilisées au moment de la crise. Et là, quand vous arrivez fragilisé au moment de la crise et vous prenez la crise en pleine face, bah ça vous met à terre. Donc ce qu'on a vu au UK, c'est que c'était aussi beaucoup de
gros,
beaucoup de grands groupes. Donc, je ferai pas une dichotomie entre les grands groupes qui vont s'en sortir parce que c'est des grands groupes, parce que plus t'es grand, plus t'as des charges et plus t'arrives aussi endetté, fragilisé d'une certaine manière. Et inversement,
t'es moins agile en plus.
Et inversement, des petits acteurs qui sont souvent des commerçants très malins, très agiles, des entrepreneurs vraiment beaucoup. Ben, la plupart des restaurateurs sont des entrepreneurs. Ils ont leur business, ils ont monté leur truc, ils ont financé leur truc. Ils ont finalement une mainmise beaucoup plus forte sur leur activité que des plus grands groupes. Donc je ne ferai pas de dichotomie entre les grands et les petits. Après, par rapport aux chiffres que tu cites il va y avoir un cataclysme sur la profession avec 30, 40, 50% des gens qui vont faire faillite. Franchement, j'en sais rien. Mais
c'est des scénarios qui te paraissent probables, malheureusement.
Mais c'est des scénarios où je pense que la crise va faire mal. Mais c'est trop tôt pour le dire parce qu'encore une fois, je pense que le plus dur de la crise chez nous, il n'est pas aujourd'hui. Il est demain voire après-demain parce que on sait qu'on est un secteur fragilisé, donc on a eu pas tout le monde. Je parle avec beaucoup de restaurateurs confrères qui ont beaucoup de difficultés. On en a eu aussi d'ailleurs, même en étant Big Mama, à lever des crédits bancaires auprès des banques. Et en fait, c'est ce que j'appelle de la on est sous respiration artificielle, c'est-à-dire que pour l'instant on arrive à respirer, Mais quand demain, vous allez redémarrer avec 50-60% de chiffre d'affaires, que vous avez pris un ou deux tours de dette de plus, parce qu'en fait, là, on s'endette pour passer les mois de crise, mais cette dette-là...
On le sait, bien sûr.
Donc en fait, on va tous bosser pendant, pendant des mois et des mois pour rembourser les mois d'activité qui ont été à zéro. C'est là où ça va être dur. C'est là où ça va être dur et c'est pas tant aujourd'hui. C'est entre cet été et l'été d'après. Donc on va avoir une année où j'espère vraiment que pour la propagation de ce lien social, pour le dynamisme de notre activité et puis pour tous ces entrepreneurs restaurateurs qui ont mis leur vie, parce que quand on est restaurateur, on a mis notre vie dans nos commerces et dans nos restaurants, que ça va pas être si catastrophique que ça. Mais je sais pas.
Ouais. On approche de la fin du podcast. Je voulais juste qu'on aborde aussi un dernier thème qui nous est cher et qui vous est cher chez Big Mama, c'est les producteurs. Comment, et on sait que vous êtes très proche de vos producteurs, notamment en Italie, quel était l'impact de cette crise pour eux? Est-ce qu'ils sont en difficulté? Est-ce que tu t'inquiètes pour eux? Quels sont les risques?
Alors bien sûr, on a eu, je vous parlais de toute le discours de transparence et de communication qu'on a eu avec nos équipes, on l'a eu énormément avec nos producteurs, ils font quasiment partie de notre famille. On a une centaine de producteurs aujourd'hui en Italie, il y en a un paquet, Victor et moi, on les a rencontrés quand on tournait en vélo, en voiture à l'époque, il y a 6-7 ans, et qu'on faisait le tour de l'Italie, donc c'est des gens dont on a leur portable et on les appelle le samedi après-midi pour savoir si toute la famille va bien. Donc on a maintenu ce lien-là. J'ai le sentiment qu'il n'y a pas eu trop de catastrophes. Il y a personne, en tout cas dans notre entourage, qui a perdu son activité ou ses exploitations. On a continué à travailler un peu avec eux d'ailleurs, puisque on a servi un peu plus de 10 000 repas pendant la crise aux hôpitaux et à des associations pour aider les démunis. Et donc on a continué à faire du sourcing.
Ouais.
Bizarrement, je sais pas trop pour quelle raison, mais même quand l'Italie était ultra confinée et fermée, les circuits d'appro alimentaires fonctionnaient toujours plutôt pas mal. Donc on n'a pas eu de rupture d'approvisionnement trop. On a pu continuer. Nous on a mobilisé une vingtaine de chefs qui cuisinaient à domicile pour les hôpitaux, et donc on faisait livrer les produits. On avait un petit tour de livraison quasiment tous les deux jours pour livrer nos chefs chez eux de produits pour qu'ils puissent cuisiner les plats. Et donc on a continué à travailler avec eux. On n'a pas du tout eu de rupture de 100% à 0%. Donc ça, c'était plutôt une bonne chose. Et évidemment, là, quand on a réouvert le click and collect, on a réaccéléré aussi un peu cette collaboration-là. Donc pour l'instant, je dirais que c'est plutôt positif. Plutôt positif. J'ai pas senti de gros cataclysmes là-dessus, mais j'ai pas pu aller les voir et j'ai pas pu avoir 100% de leur état évidemment aujourd'hui. Mais les messages étaient plutôt rassurants.
Et Tigrane, on arrive donc vers la fin du podcast. On aime bien terminer avec un sujet un peu plus léger, surtout pendant cette période-là compliquée. Et on souhaite savoir comment nos invités ils vivent les confinements. Donc, où est-ce que tu es confiné? Qu'est-ce que tu fais pendant les confinements? Et est-ce que tu as des bons plans confinement à partager avec nos auditeurs?
Alors, moi, j'ai eu un confinement assez compliqué. Puisque pour tout vous dire, on a déménagé avec ma famille. Je suis marié à une femme extraordinaire et j'ai deux petits enfants, un petit garçon de 3 ans et une petite fille d'un peu plus d'un an. Et quelques semaines avant la crise, on avait déménagé à Madrid, puisqu'on allait ouvrir un établissement là-bas et qu'on lançait Big Mama en Espagne. Et du coup, comme Victor l'avait fait à Londres à l'époque, on avait décidé que un des deux fondateurs aille s'installer, puisque c'était une orientation stratégique. Ouvrir un nouveau pays pour nous, c'est quelque chose de très important. Et donc, on avait fait le choix d'aller s'installer là-bas avec ma famille. Donc, on a vécu quelques semaines à Madrid, et puis est arrivé le confinement. Et à ce moment-là, on connaissait très très peu encore la ville, on connaissait pas la langue, on connaissait très peu les hôpitaux, les choses. Et donc, on n'avait plus d'appartement, on avait rendu notre location d'appartement à Paris. Et donc, du coup, on a été se réfugier, entre guillemets, chez la maman de ma femme, qui habite à côté de Montpellier, et qui, et qui nous a hébergé pendant, enfin qui nous héberge d'ailleurs toujours, mais
ouais,
qui nous a hébergé pendant tout le confinement. Donc j'ai vécu chez ma belle famille, ce qui était extraordinaire. J'aurais pas pensé que j'allais vivre 2 mois entiers chez ma belle famille. C'est vraiment des gens exceptionnels, extraordinaires. Donc ça s'est très bien passé. Et les joies du confinement. Alors il y a des joies et des désagréments. Les joies du confinement, c'est qu'évidemment vous passez beaucoup de temps avec votre famille et avec vos enfants. Et ça n'a pas de prix. Si on doit voir aussi les aspects positifs. Les aspects positifs. J'ai une petite fille qui a 1 an et demi. J'ai passé énormément de temps avec elle. Je l'ai vue grandir. Je l'ai vue changer. Je l'ai vue. Ça, c'est un bonheur vraiment encore plus fort que tout ce que vous pouvez avoir professionnellement. Enfin, en tout cas pour moi. Et le petit désagrément, bah, c'est que comme tout le monde. On vit un peu en autarcie avec la gestion des enfants qui est compliquée en même temps que la gestion professionnelle. Et on a eu quand même beaucoup de travail pendant la crise puisqu'il a fallu gérer tous les plans d'action. On s'est mis quand même beaucoup en activité mentale et de gestion de la crise. Et donc trouver l'équilibre entre les deux schtroumpfs qui font la bamboula à la maison et négocier des prêts bancaires sur des lignes importantes à côté, ça a été un petit peu il fallait être magicien un peu là-dessus, mais voilà, on en gardera des bons souvenirs en tout cas on a hâte de redémarrer les restos et la vie voilà plus familiale et personnelle de notre côté, mais passer ces 2 mois avec ma belle famille a été quand même très très sympa.
Tigrane, on va te laisser venir t'occuper de ta famille. Je pense que c'est, comme tu dis, c'est très important et je pense qu'on passe tous par plus ou moins la même expérience. Mais tu nous as parlé d'une chose qui nous a un peu titillé l'oreille, c'est que tu t'es installé à Madrid pour l'ouverture de probablement d'un des restos là-bas. Tu es revenu en France, donc je suppose que cette initiative-là, elle est en stand-by. Mais dès que la situation reviendra à la normale, peut-être on parle de 2021, c'est un projet que vous allez quand même donner suite. Vous allez continuer votre développement
bien
international.
Sûr, bien sûr. On a un projet là-bas qui est en cours et qui sera probablement d'ailleurs avant 2021. Qui sera probablement cette année.
Vous avez déjà identifié même un placement pour le restaurant?
Oui, je peux pas vous en dire trop parce que je vais me faire taper sur les doigts.
On s'arrête là.
parce qu'on aime bien, on aime bien garder les petites surprises, mais oui, pour vous donner les grandes lignes, ça sera un projet 2020 et on y sera de retour et c'est un beau projet. C'est un beau projet.
Super. Peut-être qu'on aura l'occasion de t'avoir, toi ou Victor, ou les deux, pour nous raconter tout ça dans un autre moment.
Avec grand, grand, grand plaisir.
En face à face, c'est plus sympa quand même.
Yes.
Avec plaisir. Merci beaucoup Tigrane pour tous ces éléments. Ta vision sur la restauration est passionnante. Donc c'est pour ça que c'est un podcast qui est un petit peu plus long que d'habitude dans cette édition spéciale. Mais je pense que ça valait le coup. Merci beaucoup.
Merci à vous deux. Désolé pour les petits bruits d'enfants derrière. Mais voilà, ça fait partie du charme du fait maison.
Exactement.
On est d'accord.
C'est tout à fait ça. Merci
Salut,
Tigrane.
Bon courage.
Merci,
bon courage
ciao.
À vous et bon courage à tout le monde. Et gardez la foi, on va y arriver.
Merci Tigrane. Au revoir. Salut.
Bye bye.
Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous.
Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour recevoir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur le site businessofbouffe.com.
À très bientôt.